Oui, en trois points assez rapides. Le premier point, je suis niçois, je viens de l'école de Nice et je viens de l'école qui a été dirigée par Gérard Farjat, l'école de droit économique. Et on nous a, et encore aujourd'hui, on nous dit, mais c'est quoi le droit économique ? Bon, alors on connaît très bien le droit des affaires, on connaît très bien le droit commercial, ça correspond à un code. Mais le droit économique, c'est quoi ? Et alors, on a eu des débats infinis pour savoir ce qu'était le droit économique. Aujourd'hui encore, on nous dit, mais qu'est-ce que le droit économique ? De manière aussi à délégitimiser notre action en disant, mais vous travaillez sur un objet indécis, improbable, mouvant, etc. Et je crois que Gérard Farjat, qui a été l'un de mes maîtres, a eu la bonne réponse, puisqu'à un moment donné, il a dit, oui, mais le droit économique vit sans définition. Et il n'y a pas besoin de définir le droit économique, c'est un concept qui vit sans définition, il l'a écrit notamment aux archives de philosophie du droit. Et il disait, le droit économique, c'est le couplage droit-économie. C'est l'étude du couplage droit-économie. Ce qui est une manière de dire, et de désamorcer les critiques, en disant que c'est une nouvelle approche du droit, ce n'est pas une discipline, c'est une lecture, c'est un nouveau paradigme, etc. etc. Et je pense qu'on peut aussi se servir de cette approche pour le droit global ou le droit transnational, parce qu'on peut aussi dire que, éventuellement, le droit global vit sans définition, car il ne s'agit pas d'une matière, il ne s'agit pas d'une discipline, il s'agit d'une approche nouvelle, des phénomènes globaux, et je souscris parfaitement à ce qui était dit par Benoît il y a un instant. Alors ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque sur l'État. Alors, on en a tellement dit sur l'État. On peut dire, alors ça, je parle sous le contrôle de vous, monsieur Alperin, et des historiens du droit. L'État moderne, en tout cas, est plutôt d'apparition récente. Et on peut postuler que l'État est aussi une parenthèse historique. Et que c'est un État, avec un petit « e », de l'histoire. L'État est un État de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de mutation vers des structures post-étatiques. L'État n'est pas mort, mais il est largement dépassé par des structures post-étatiques. D'autant plus que l'État n'existerait pas sans le droit. L'État est une production du droit. L'ordre juridique, si on considère que c'est un concept pertinent, l'ordre juridique préexiste à l'État. L'État n'existe pas sans le droit. Et quand on voit l'État comme étant le producteur du droit, moi je dis, c'est le droit qui produit l'État. Et pas l'État qui produit le droit. Car l'État sans droit ne serait rien. Ce sont des notions qui sont bien connues des publicistes, mais qu'il faut rappeler, notamment aux privatistes, parce que quand on voit en l'État le producteur du droit, il faut aussi voir dans le droit le producteur de l'État. Et on n'a pas encore cité Ulrich Beck, mais Ulrich Beck parle du dépassement de l'étatisme méthodologique. Lui, le sociologue allemand, considère qu'il faut dépasser le nationalisme méthodologique. Mais je viens à ce que je voulais dire. Ulrich Beck parle du nationalisme méthodologique et il considère qu'il faut dépasser justement la vision du monde à travers le nationalisme, la nation. Mais je parlerai aussi du dépassement de l'étatisme méthodologique dans la mesure où je pense qu'il est nécessaire, encore plus aujourd'hui, de dépasser la vision étatique du droit pour justement appréhender ces phénomènes globaux. Mais pas uniquement les phénomènes globaux. Si on a une vision de sociologie du droit, si on s'intéresse au droit vivant, si on s'intéresse au pluralisme des phénomènes normatifs, on voit même que dans le quartier, la petite entreprise, le syndicat, il y a du pluralisme juridique, il n'y a pas que du droit étatique. Le droit qui est mobilisé par les acteurs est aussi un droit non étatique. Donc si on se réfère à Beck, on peut dire que le nationalisme méthodologique doit être dépassé tout autant que l'étatisme méthodologique, mais ce n'est pas une mince affaire dans la mesure où, depuis la première année en droit, on nous explique que l'État est l'alpha et l'oméga du droit. C'est aussi une manière de repenser nos enseignements. On en discutait à midi. Alors, troisième remarque, courte remarque, c'est sur l'arbitrage. Il a été cité par vous tout à l'heure. C'est un peu mon domaine de spécialité. L'arbitrage international, en tout cas l'arbitrage commercial international, est un très bel exemple. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple de droit global. C'est en tout cas un très bon exemple de droit transnational. L'idée même d'un droit transnational a été très mobilisée en matière d'arbitrage, en lien avec la Lex Mercatoria. Et les penseurs de la Lex Mercatoria, notamment Goldman, ont mobilisé beaucoup cette notion même de droit transnational en faisant de l'arbitre le principal agent du droit transnational. Et lorsqu'un arbitre statue, il statue dans une optique proprement globale, transnationale ou internationale, c'est-à-dire que soit il applique les usages du commerce, soit il applique les principes généraux dégagés d'une analyse comparative, soit il applique une loi étatique. Mais la pratique de l'arbitrage montre qu'un arbitre n'applique pas la loi d'un État comme le ferait le juge de cet État. Un arbitre ne va pas appliquer la loi allemande comme le ferait un juge allemand. Et c'est bien pour ça que les parties choisissent l'arbitrage. Et on ne peut pas attendre d'un arbitre une application orthodoxe d'une loi nationale, orthodoxe au regard de l'ordre juridique de provenance de la loi. Il va l'appliquer à sa manière. Il va l'appliquer dans un contexte transnational. Il va l'appliquer en rapport avec les usages du commerce, avec les pratiques des commerçants. Comme le dit Gabriel Kaufmann-Koller, qui est une collègue suisse et une très grande arbitre, l'arbitre transnationalise la loi nationale. Il transnationalise la loi qu'il applique pour l'adapter à un contexte transnational. Ce qui veut bien dire qu'il y a ici une transformation de la loi nationale, une adaptation, certains diraient une trahison, parce qu'il faut expliquer aux partis qui ont choisi la loi allemande que finalement, elles n'auront pas une application orthodoxe. Mais c'est aussi pour ça qu'elles choisissent l'arbitrage. Elles choisissent l'arbitrage pour être jugées différemment que devant un juge étatique. Donc les arbitres me semblent vraiment les héros du droit transnational, même si on ne peut pas couper complètement le cordon avec l'ordre juridique étatique. Mais on retrouvera l'État et l'ordre juridique étatique essentiellement dans une seule hypothèse, enfin pas uniquement, mais principalement celle-ci, lorsqu'il faut faire exécuter la sentence par la force, là il faudra bien aller voir un État pour qu'il octroie le concours de la force publique, et c'est en cela que l'État est utile. Il donne son bras armé lorsqu'il y a besoin pour cela.